Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nightmare Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Urdegard 2025-2026 est la 8e édition d'un guide professionnel consacré aux prises en charge en médecine d'urgence, coordonné par Frédéric Adnet. Professeur de médecine d'urgence et responsable au SAMU de Paris, l'ouvrage ne relève pas du traité théorique, il vise la consultation immédiate au moment où une décision clinique, technique ou thérapeutique doit être prise. Son format compact de 324 pages rassemble plus de 210 fiches associant protocoles médicaux, fiches techniques et scores utiles à l'évaluation. Cette édition met particulièrement l'accent sur l'actualisation des recommandations nationales et internationales, ainsi que sur une hiérarchisation explicite des conduites à tenir selon trois niveaux de recommandations. Un index détaillé, des traitements présentés de manière opérationnelle et une application mobile associée soutiennent la recherche rapide d'informations. De nouvelles entrées concernent notamment la leptospirose, la situation de handicap et les intoxications liées aux drogues récréatives. Le livre se présente ainsi comme un instrument de travail destiné à structurer la décision sous contrainte de temps. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, des fiches conçues pour convertir rapidement une situation clinique en conduite à tenir. La fonction centrale de Urdegard est de réduire le délai entre l'identification d'un problème et la mise en œuvre d'une prise en charge adaptée. Plutôt que de développer longuement la physiopathologie de chaque affection, les fiches concentrent l'information nécessaire aux soins immédiats, conduite à tenir, évaluation, examen pertinent, traitement et éléments techniques. Cette organisation répond à une réalité propre aux urgences, où le professionnel doit prioriser, réévaluer et coordonner plusieurs actions dans un temps limité. La présence de plus de 210 fiches permet de couvrir un ensemble large de situations, sans prétendre remplacer les recommandations intégrales ou une discussion spécialisée lorsque celle-ci est nécessaire. Les traitements sont volontairement détaillés afin de faciliter la prescription sans imposer une recherche parallèle dans plusieurs références. Cet aspect est particulièrement utile aux internes, aux médecins en début d'exercice et aux infirmiers travaillant dans un environnement clinique rapide. Le format de poche renforce cette logique, il ne s'agit pas seulement de posséder un savoir, mais de pouvoir y accéder au chevet du patient. La valeur du guide tient donc à sa capacité de transformer des référentiels complexes en repères utilisables, tout en rappelant que la décision reste dépendante du contexte clinique, des ressources disponibles et du jugement du soignant. Deuxièmement, la hiérarchisation selon le niveau de preuve rend les recommandations plus lisibles. La principale évolution éditoriale annoncée pour cette édition est la classification des traitements et des conduites à tenir selon trois niveaux de recommandations. Cette présentation ne constitue pas une simple amélioration visuelle. En médecine d'urgence, de nombreuses décisions doivent être prises alors que les options thérapeutiques diffèrent par leur solidité scientifique, leur degré de consensus ou leur pertinence selon la gravité. Rendre ce niveau visible aide le lecteur à distinguer ce qui relève d'une recommandation fortement établie de ce qui dépend davantage de circonstances particulières ou de données. Moins robuste, le guide introduit ainsi une dimension critique dans un outil avant tout pratique. Il limite le risque de lire un protocole comme une succession de consignes équivalentes et invite à comprendre les priorités thérapeutiques. Cette hiérarchie est également utile pour la formation, car elle permet aux professionnels en apprentissage de relier les gestes et prescriptions à une logique de preuve plutôt que de mémoriser des listes isolées. Elle ne dispense toutefois ni de connaître les contre-indications, ni d'adapter la stratégie au patient. Son intérêt est de fournir un cadre clair dans un moment où l'urgence favorise naturellement les raccourcis cognitifs. En ce sens, l'ouvrage cherche à concilier rapidité d'exécution et traçabilité intellectuelle de la décision médicale. Troisièmement, index. Scores et fiches techniques organisent la recherche d'informations au point de soin. L'accessibilité de l'information est aussi importante que son exactitude dans un manuel de garde. Urdegard combine un index exhaustif, des scores cliniques et des fiches techniques pour répondre à différents modes de recherche. L'index sert lorsque le lecteur part d'un symptôme, d'une pathologie ou d'une situation précise et doit localiser rapidement la conduite à tenir. Les scores, de leur côté, structurent l'évaluation du risque ou de la gravité en transformant plusieurs données cliniques en aide à la décision. La présence du score TripCast parmi les nouveautés illustre cette volonté d'intégrer des outils actualisés dans le flux de travail. Les fiches techniques complètent les protocoles médicaux en abordant des gestes, des procédures ou des modalités pratiques qui ne se résument pas à un diagnostic. Cette architecture évite de réduire les urgences à une liste de maladies. Une prise en charge peut exiger une évaluation standardisée, une procédure et une prescription coordonnée. L'organisation alphabétique mentionnée par des lecteurs renforce encore la rapidité de repérage. En revanche, un guide condensé implique une sélection et ne peut détailler chaque tableau atypique ou chaque situation locale. Il est donc particulièrement efficace comme référence de première intention puis comme point de départ vers les filières spécialisées, les protocoles institutionnels et les avis requis par la complexité du cas. Quatrièmement, les nouveaux sujets élargissent le guide à des enjeux cliniques et relationnels actuels. Les ajouts consacrés à la leptospirose, à la situation de handicap et aux intoxications par drogue récréative signalent une attention aux évolutions des motifs de recours et des besoins des patients. La leptospirose correspond à une affection dont la reconnaissance peut nécessiter de croiser contexte d'exposition, présentation clinique et risque de forme sévère. Son inclusion rappelle l'intérêt de conserver des repères sur des diagnostics moins fréquents, mais potentiellement graves. La fiche sur les intoxications liées aux drogues récréatives répond à des présentations souvent variables, dans lesquelles l'identification du produit peut être incertaine et où l'évaluation clinique immédiate reste prioritaire. Elle s'inscrit dans une médecine d'urgence confrontée à de nouvelles substances et à des usages changeants. La situation de handicap ouvre un autre registre, elle met en évidence que la qualité de la prise en charge ne repose pas uniquement sur le protocole biomédical, mais aussi sur l'adaptation de la communication, de l'examen et de l'orientation. Ces thèmes ne constituent pas une spécialité isolée dans le livre, mais enrichissent un corpus conçu pour des décisions concrètes. Leur présence contribue à éviter une vision trop standardisée du patient urgent. Elle souligne que les recommandations doivent être appliquées avec une attention aux vulnérabilités, aux difficultés d'accès à l'information et aux conditions réelles dans lesquelles les soins sont délivrés. En dernier lieu, l'application mobile prolonge le livre par un usage interactif en ligne ou hors ligne. L'ouvrage est accompagné d'une application mobile accessible avec l'achat du livre, conçue pour rendre le contenu consultable en ligne comme hors ligne. Cette complémentarité entre papier et numérique répond à des usages distincts. Le volume physique reste immédiatement disponible, stable et facile à parcourir, tandis que l'application facilite les renvois entre fiches et l'accès aux scores interactifs. Les protocoles, scores et répertoires peuvent également être annotables selon les informations éditoriales disponibles, ce qui peut soutenir une appropriation personnelle ou locale de l'outil, dans un service d'urgence. La possibilité de naviguer rapidement entre plusieurs ressources est utile lorsqu'une décision dépend à la fois d'un protocole, d'un calcul et d'une vérification thérapeutique. Le fonctionnement hors ligne est particulièrement pertinent dans des environnements où la connectivité ne peut être tenue pour acquise. Cette dimension numérique ne transforme pas le guide en système de décision autonome, elle améliore surtout la circulation dans un contenu éditorial déjà structuré. Elle pose aussi une exigence de vigilance, car les utilisateurs doivent vérifier que leurs pratiques institutionnelles et les recommandations applicables correspondent au contexte de soins. La force de cette formule hybride réside dans la continuité qu'elle offre entre apprentissage, consultation pendant la garde et révision ultérieure. Elle répond à la fois aux habitudes de lecture des professionnels et aux contraintes opérationnelles de la médecine d'urgence. En conclusion, URE de garde 2025-2026 s'adresse en premier lieu aux médecins urgentistes, aux internes en médecine d'urgence et aux infirmiers exerçant dans les services d'urgence. Il peut aussi intéresser des généralistes confrontés à des situations aiguës ou souhaitant mieux anticiper l'orientation hospitalière, à condition de ne pas le confondre avec un manuel complet de médecine générale ou un référentiel spécialisé. Son bénéfice pratique réside dans la mise à disposition rapide de protocoles, de scores, de fiches techniques et de détails thérapeutiques dans un format adapté à la garde, pour les professionnels en formation. La hiérarchisation en trois niveaux de recommandation apporte un bénéfice intellectuel complémentaire, elle rend plus visible le lien entre l'action proposée et le niveau de preuve qui la soutient. Le guide se distingue des ouvrages plus encyclopédiques par son orientation résolument opérationnelle. Là où un traité privilégie l'explication approfondie et la couverture exhaustive, celui-ci privilégie le repérage, la priorisation et la mise en application. Il se différencie aussi de simples recueils de protocoles par son index, l'intégration de scores et le prolongement numérique proposé par son application utilisable hors ligne. Ses limites découlent de ses qualités, la concision impose une sélection et ne remplace ni les référentiels détaillés, ni les procédures locales, ni l'expertise collégiale pour les cas complexes. Comme outil de référence immédiate, il offre néanmoins un compromis solide entre actualisation, portabilité et utilité clinique quotidienne. Si vous souhaitez soutenir Frédéric Adnet, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.